Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Heureux de vous retrouver dans le cadre de ce numéro d'Economia qui s'intéresse encore une fois à la notation financière, mais cette fois-ci à cette initiative de l'Union africaine qui veut mettre en place une agence de notation africaine qui aura pour rôle d'évaluer les économies africaines en tenant compte de ces réalités. Une manière de contrebalancer l'hégémonie des agences internationales dont les évaluations sont jugées deux fois trop sévères et contre-productives pour les pays africains dans la mobilisation des emprunts sur les marchés. C'est un sujet qui sera décortiqué avec notre consultant Faustin Onozon que nous retrouverons dans le cadre de la rubrique Regard sur la gestion des économies. Avant cela, explication de certains termes dans le lexique économique. Et vers la fin de cette émission, vous suivrez la nouvelle rubrique d'Economia itinéraire qui est un focus sur le parcours de vie des entrepreneurs que nous recevons. Bienvenue à tous.
Le lexique économique.
La notation financière.
La notation financière est l'appréciation par une agence de notation du risque de solvabilité financière d'une entreprise, d'un État, d'une collectivité locale ou d'une opération financière à mener.
Rôle des agences de notation.
Il faut le savoir, les agences de notation sont des entreprises privées dont le rôle est de mesurer le risque de non-remboursement des dettes contractées par une entreprise ou un État. Les notes produites diffèrent selon les agences de notation, mais s'échelonnent généralement de AAA, triple A comme on l'appelle, la meilleure note traduisant un risque de défaut faible, à D, caractérisant une situation de défaut de paiement. Pour établir donc ces notes, les agences de notation utilisent de nombreux critères. Par exemple, pour un État, l'agence analyse les perspectives de croissance économique, l'évolution des dépenses publiques, la capacité à lever des impôts, la stabilité politique, etc.
Une catégorie spéculative au niveau de la notation financière.
À partir de cette catégorie dite spéculative, le risque de non-remboursement est plus important sur le long terme.
Regard sur la gestion économique nationale.
Monsieur Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour Monsieur Premier.
Nous parlons de notation donc africaine, notation des pays ou entreprises. Et dans ce cadre, la nouvelle agence africaine de notation et de crédit est en création. En tout cas, c'est une volonté de l'Union africaine. Récemment, lors d'une rencontre, le commissaire de l'Union africaine en charge du développement du commerce et du tourisme et également de l'industrie a annoncé qu'une nouvelle agence de notation de crédit spécialement conçue pour les besoins des emprunteurs donc africains va voir le jour. Comment vous réagissez déjà à cette annonce-là?
Ben, je pense que c'est une bonne chose parce que l'Afrique, c'est quand même un continent qui est important, un continent au niveau duquel on retrouve pas mal de richesses, pas mal de produits et un continent qui est en devenir permanent dans la mesure où nous avons ces dernières années des taux de croissance macroéconomique qui sont tous positifs, qui sont même supérieurs à 3%, 4%, 5% pour certains pays. Et j'estime donc pour ma part que ces pays-là devraient prendre en main les différents aspects de gestion de leur développement, d'où la base, par exemple, des notations financières. Donc, si les structures de ces pays veulent noter leurs différents pays, je pense que ce serait une très bonne chose.
L'objectif, c'est de contrebalancer, on peut dire, la trop grande influence des trois principales agences de notation américaines, connues au plan mondial, notamment Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Que reproche-t-on à ces agences donc, internationales?
Logiquement, quand on fait une notation, c'est qu'on évalue les risques de crédit qui sont associés aux différentes dettes. Et il faudrait que ces risques de crédit soient évalués d'une manière qu'on peut percevoir maintenant comme à l'horizon. Alors, si vous estimez que la note qui vous a été attribuée ne va pas de pair avec vos résultats en matière, par exemple, de produits intérieurs, c'est-à-dire de PIB, de variations de PIB, en matière de gestion de vos budgets, il est tout à fait normal qu'on se plaigne. Et c'est le cas des pays africains.
Justement, le commissaire de l'Union africaine a relevé que généralement, les notations des pays africains fait que pour le coût des crédits, cela est un peu élevé parce qu'on estime que les pays africains sont des pays à risque. En tout cas, c'est la perception pour l'instant des notations émanant des agences internationales. Quelle est votre analyse de cette position?
Ouais, justement, tout récemment, il y a 13 pays même africains dont les notes ont été dégradées et qui ont été classées dans des catégories spéculatives. Quand on vous classe dans une catégorie spéculative, c'est que vous n'êtes pas loin d'un risque de défaut de paiement, ce qui n'est pas vrai pour ces pays. Donc j'estime pour ma part que l'option qu'on est en train de prendre en Afrique est une option qui est cohérente. Et moi, je pense qu'on devrait la maintenir. On a tous les atouts nécessaires pour pouvoir créer des agences de notation africaines qui devraient être prises en compte aussi au niveau des notations, j'allais même dire mondiales, qui sont faites par les trois agences dont vous venez de parler.
Justement, pour parler de ces agences internationales, l'approche de la notation, est-ce que ce n'est pas ça le cœur du problème? Est-ce que ces agences-là notent en fonction des standards internationaux qui peuvent défavoriser l'analyse ou la situation de ces pays africains?
Oui, effectivement, ces agences notent dans le cadre des standards internationaux. Mais je pense que c'est une notation qui est un peu sévère. Parce que quand elles font certainement deux poids, deux mesures, quand on constate qu'en Afrique, on est un peu plus sévère que dans d'autres continents ou dans d'autres pays, il apparaît tout à fait normal qu'on s'y plaigne et qu'on veuille rester dans une agence de notation qui comprend de près nos problèmes, nos difficultés et qui peut estimer qu'on ne peut pas être en défaut de paiement.
Mais est-ce qu'il y a une notation particulièrement africaine? C'est ça aussi l'équation. Est-ce que cette future agence donc, qui sera créée, l'agence de notation et de crédit, analysera les économies africaines sous l'angle de la perception africaine? Est-ce que cela est assez compétitif, hein?
Non. Ce sera une notation universelle. Mm-hmm. Il n'y a pas de notation africaine, de notation américaine, de notation européenne. Les notations sont les mêmes partout. Mais seulement, nous voulons nous rassurer que les notes qu'on nous donne, ce sont des notes crédibles. Quand nous-mêmes, nous savons que nous sommes crédibles, quand nous-mêmes, nous savons que nous avons une variation positive de nos croissances au niveau du PIB, quand même nous savons que nos budgets nous permettent de payer les crédits que nous avons pris, et puis on dégrade nos notes. Nous estimons par là qu'il faudrait qu'on prenne les taureaux par les cornes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire.
En tout cas, selon le commissaire de l'Union africaine, l'agence sera donc une entité indépendante, sans lien direct avec l'Union africaine ou tout autre bloc régional. Et donc, comme vous l'avez dit, cette agence fonctionnera aux standards internationaux. Alors, l'ACRA, c'est donc l'acronyme de cette future agence, sera-t-elle acceptée, hein, cette agence-là, par les pays africains? Est-ce qu'on n'aura pas encore ce même réflexe-là d'avoir un œil de ces agences connues internationalement? Parce que généralement, on lève les fonds aussi au niveau international, hein, sur les places boursières et financières donc de ces pays européens, américains et bien d'autres.
Mais je pense que cette nouvelle agence africaine ne va pas travailler en vase clos. Et c'est vrai que chaque agence a ses notations, mais toujours est-il que ce sont des agences qui se rencontrent quelque part dans le cadre de leurs activités pour discuter d'une notation objective. Donc, être noté par une agence africaine ou être noté par une agence européenne ou américaine, pour moi, je pense que ce sont les mêmes évaluations. Mais seulement, nous voulons être sûrs des notes qu'on nous attribue. Nous voulons être sûrs des différents déclassements qu'on fait à notre endroit.
Et selon, en tout cas, les données que nous avons aussi, une plateforme d'investissement nommée DABA Finance, la subjectivité et la partialité dans les notations de crédit des pays africains entraîne des coûts considérables, hein, atteignant jusqu'à 24 milliards de dollars en intérêts supplémentaires et plus de 46 milliards de dollars en opportunités de prêts manquées. Quelle est votre réaction par rapport à cette information?
Mais moi, je pense très honnêtement que tout est une question d'organisation. Il appartient aux pays africains de voir comment est-ce qu'ils pourraient réorganiser leurs économies. Et quand on est malade, on s'est fait soigner. Parce que, donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Tout est une question de réorganisation des différentes capacités financières de nos différentes économies. Et puis, suite à cette réorganisation, je pense qu'on pourra attaquer nos difficultés de front et puis voir comment est-ce qu'il faut améliorer le remboursement des différents crédits. Mais déjà, nos pays évoluent correctement. Dans le cadre des différents PIB, on constate une amélioration au niveau de tous les pays africains. Et ces pays africains, ces dernières années-là, maîtrisent de plus en plus leur budget. Les différents budgets qui sont alloués à ces pays-là, en fonction de leurs recettes notamment. Et donc, moi, je pense que c'est une question d'organisation, de réorganisation de nos différentes économies pour pouvoir affronter toutes ces difficultés.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des préjugés qui existent encore par rapport aux économies africaines qui font que ces agences internationales continuent deux fois à dégrader les notes des pays africains avec une lecture un peu biaisée?
Mais c'est pourquoi on dit que ces agences-là font deux poids, deux mesures. Mm-hmm. Parce que vous avez ici des taux d'endettement qui sont supérieurs à 100%, 150% pour certains pays développés. Mais ce n'est pas pour autant qu'on dégrade sur le champ les notes de ces pays-là. Mm-hmm. Mais dès qu'il s'agit de l'Afrique, il y a quelques susceptibilités qu'il faut confronter. Donc c'est pour tout ça, c'est pour toutes ces difficultés qu'il serait bon qu'une agence d'une tasse africaine sorte. Et que ce n'est pas pour une question de, c'est pas pour rivaliser avec les autres agences, mais c'est pour discuter, pour voir objectivement si telle note a dégradé, s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire.
Alors, pour rappel, et pour terminer aussi, quel est le rôle justement de ces agences de notation?
Mais leur rôle, c'est d'évaluer les risques des crédits qui sont associés aux dettes. Voilà. Et si vous, dans le cadre, je prends peut-être une personne comme vous et moi, vous prenez, si vous voulez vous endetter auprès de votre banque, et on vous dira de ne pas dépasser 30%. Et lorsque vous dépassez 30%, ça veut dire que votre note doit être dégradée. Et l'objectif de ces structures-là, c'est de voir si elles peuvent justement évaluer les risques des crédits associés aux dettes. Elles prendront en compte certains paramètres macroéconomiques, tels que la consommation, l'investissement, j'allais dire aussi le sort du commerce extérieur, c'est-à-dire tous les paramètres qui renferment la variation d'une fonction de production, par exemple. Donc, c'est des atouts pour un pays. Lorsqu'on constate que ces paramètres-là... c'est des bons paramètres, et ça veut dire que vous aurez une variation positive de production nationale. Et lorsque le PIB évolue correctement, ça veut dire que vous pouvez faire des recettes qui vont vous amener à rembourser votre crédit. Donc c'est le rôle de ces structures, de ces agents de notation justement.
D'évaluer votre solvabilité, on peut dire.
Tout à fait. Et les notes vont de A à A à D pour les pays les plus solvables jusqu'aux pays qui pourraient être en défaut de paiement.
Faustin Onoson, je vous remercie.
Merci à vous, M. Koumé, à bientôt.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Nous sommes à Daloa, itinéraire d'un homme, M. Oura. Il va nous parler de son parcours. Il est avec nous. M. Oura, bonjour.
Bonjour, frère.
M. Oura, quel est votre domaine d'activité?
Je suis un homme d'affaires, mais un homme d'affaires qui est... orienté dans deux différentes activités, dans le BTP et puis l'imprimerie. En imprimerie, je fus le premier imprimeur numérique dans la région du Haut-Sassandra. Et depuis 2017, nous sommes passés à la phase numérique de l'imprimerie. Avec le temps, après ma formation, je suis venu implanter ce volet numérique à Daloa.
Donc, vous êtes dans l'imprimerie et le BTP, justement, M. Oura. 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, qu'est-ce que vous faisiez avant?
Quand j'étais élève, ceux qui m'ont connu disaient que l'art était un don pour moi. Parce que même quand j'étais encore au lycée 1, j'enseignais l'art plastique à mes amis qui avaient l'amour du dessin, qui ne savaient pas dessiner. Donc voici comment je me suis donné corps et âme pour développer ce don que Dieu m'a donné. Et par mes manières de toucher le crayon, tout ça, ça a motivé l'un de mes professeurs que je cite aujourd'hui, M. Ndajul, qui a décidé de m'encadrer depuis la classe de 5e. Et c'est depuis lors, ce monsieur a décidé de m'encadrer. Et après ces 2 mois de suivi, j'ai pris l'initiative de créer un club d'art plastique au lycée 1. Chaque mercredi, de 15h à 17h, les amis qui avaient l'amour du dessin venaient et puis je mettais à leur disposition le peu que j'avais comme connaissance. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai des jeunes que j'ai formés qui sont devenus professeurs en bande dessinée, d'autres travaillent à Gbige, un mec qui est professeur d'art plastique certifié. En tout cas, c'est une fierté pour moi. Et en dehors de ça, après le BPC, j'ai voulu rentrer à l'INSAC et par défaut de dossier, je n'ai pas pu rentrer. Donc après, j'ai dit non, je vais continuer. Après le bac, j'ai dit bon, ils m'ont orienté en histoire géo. J'ai dit je ne vais pas en histoire géo. Donc je vais poursuivre ma carrière artistique. Et mes parents se sont opposés carrément parce qu'ils m'ont mis à l'école, pas pour devenir un dessinateur, mais pour devenir une autorité de ce pays. Voilà. Donc on a fait pratiquement plus de 3 années. Mes parents et moi, on ne se voyait pas. Donc je suis allé payer mes cours au lycée technique de Daoukro en peinture bâtiment. Et quand j'ai fini, je suis rentré sur d'Aloi.
Alors, mais aujourd'hui, on sent la passion, hein. Vous vous formiez quand vous étiez plus jeune. Aujourd'hui, votre corps de métier, c'est quoi ? Vous enseignez ou vous vous êtes consacré entièrement à vos entreprises ?
Oui, effectivement, comme je l'ai dit, après l'acquisition de mon diplôme en peinture bâtiment, je me suis mis au service de l'AGFOP, PDGEC, emploi jeune qu'ils avaient besoin dans le temps, un professeur pour encadrer les jeunes au CFP 1 de Daloa. Donc c'est ainsi que, après le dépôt des dossiers, j'ai été retenu comme professeur pour suivre ces jeunes-là. Donc depuis 2013, je suis un formateur à emploi jeune, je suis formateur à PDGEC, je suis formateur à AGFOP. Et l'État m'a même décerné un diplôme d'honneur.
Sous la base de ce que vous dites, vous avez cette envie de transmettre. Et puis, au-delà de ça, vous ne vous contentez pas de cette passion-là, vous décidez de vivre de ça. Puisqu'aujourd'hui, vous avez une entreprise spécialisée donc dans l'impression numérique et une autre entreprise dans le BTP. Comment cette histoire a commencé, l'idée de créer ces entreprises?
Après ma formation, étant à Yamskru en 2011, j'ai commencé à apprendre sur l'État. Avec mes moyens, voilà, j'ai commencé à économiser un peu. Et en 2013, quand j'ai commencé à intervenir au CFP, voilà, avec mes entrées de façon salariale, un matin, je me suis levé du bon. Adieu à l'informel. Je me suis projeté. Et puis Dieu a fait grâce. En 2017, 8 janvier, l'entreprise établissement Aura est née.
Alors, nous sommes aujourd'hui dans l'établissement Aura. Votre spécialité, l'impression numérique, et puis vous ajoutez le BTP. Alors, quand on est responsable d'entreprise comme vous, et quelles sont les recettes pour faire en sorte, il ne suffit pas de créer, il faut perpétuer ce qu'on a créé. Alors, comment on réussit de 2017 à pouvoir maintenir cette boîte pour qu'elle puisse continuer ses activités?
C'est pas facile. En tant que chef d'entreprise, il y a des hauts et des bas. Et je dis merci à Dieu parce que j'ai débuté l'entreprise avec mes propres moyens. Je n'ai pas signé d'engagement de prêt avec une autorité ou bien avec une banque. J'ai débuté de mes propres moyens. Comme je le disais, j'ai épargné un peu d'argent quand j'avais des marchés de peinture, des marchés de sérigraphie. J'épargnais de l'argent jusqu'à ce qu'en un an, j'avais plus de 4 millions et quelques dans mon compte. Et ça avait les 4 millions que j'ai débuté l'entreprise. Et Dieu a fait grâce, j'ai commencé à avoir des grands marchés, sachant que j'étais le premier imprimeur. Voilà, donc tous les calligraphes venaient sous-traiter avec moi. Et ça sentait la rose. Et 2 ans après, voilà, et les mêmes personnes, d'autres ont commencé à découvrir les merveilles de l'imprimerie numérique. Voilà, par mon canal, d'autres sont venus me voir. Ok, je les ai donné des directives, ils sont allés, ils ont eu des machines. Donc, du coup, mon chiffre d'affaires a commencé à baisser. Puisque ceux qui venaient sous-traiter avec moi, eux-mêmes sont allés s'installer. Donc, du coup, ce sont des clients qui vont.
Vous avez des concurrents maintenant.
Voilà, j'ai des concurrents. Donc, du coup, le chiffre d'affaires a commencé à baisser. Il a dit, bon, si mon chiffre d'affaires commence à baisser, sachant que moi-même, je suis un expert en BTP, pourquoi ne pas me concentrer encore sur le volet BTP, le volet imprimerie. J'ai même formé mon jeune frère. Je lui ai cédé la direction de l'imprimerie. Il dit, j'ai l'imprimerie. Moi, je vais me concentrer sur le BTP. Et j'ai commencé à me concentrer sur le BTP. Et par la grâce de Dieu, avec les chantiers réalisés, voilà, on dit un chantier appelle un chantier. Une œuvre bien faite appelle une autre œuvre. Et aujourd'hui, Dieu fait grâce à la... Certes, on a eu des difficultés. Les difficultés font partie de la vie. Sans difficulté, on ne peut pas avancer. Mais le plus important, c'est qu'on arrive à être stable jusqu'à ce moment.
Alors, jusqu'à ce moment, justement, conseil de l'entrepreneur que vous êtes. Comment on gère une entreprise quand vous êtes aussi jeune pour qu'elle puisse rester encore dynamique, quelques recettes?
Pour gérer une entreprise, il faut avoir une vision. Si ta vision est ciblée, il faut avoir la maîtrise en soi. Il faut te faire toi-même confiance. Il faut expliquer ta vision à ce que tous tes collaborateurs puissent s'impliquer dans ta vision. Si ton entourage, tes collaborateurs proches ont compris ta vision, je pense bien que l'entreprise va prospérer. Donc, l'idée clé, c'est d'amener tes collaborateurs ou tes employés à comprendre ta vision. Ta vision, c'est quoi? C'est le poste qu'ils occupent là. Il faudrait qu'ils arrivent à gérer correctement leurs responsabilités.
Alors, Monsieur Oura, en tant que personne avertie dans les affaires, qu'est-ce que vous pourrez donner comme conseil à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat?
C'est ce que je disais tout à l'heure. Avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, ou bien n'importe quelle activité, il faut avoir une vision. faut mûrir l'idée. Quand l'idée, tu as mûri l'idée, en ce moment, tu vas chercher maintenant à faire germer cette idée. Et en faisant germer cette idée, tu vas te faire entourer par un conseiller ou bien aller te faire former pour ne pas que tu puisses choisir soit la mauvaise branche. Parce que si tu es mal formé, l'idée ne va pas germer, elle va mourir. Tu peux avoir l'idée, mais si la formation n'y est pas, l'idée va mourir.
Merci à vous, Monsieur Oura, pour ces conseils avisés.
Merci à vous et que Dieu nous garde.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.